Bonjour à tous, très content d'être parmi vous, partager quelques moments ensemble. Pour me présenter brièvement, Jean-Yves Le Guéhennec, marié avec Marie-Salomé, et nous sommes venus aussi avec nos trois enfants. Je suis pasteur depuis 2008 à Pierrelatte, depuis un peu moins longtemps. Et puis, vous avez les salutations de l'église de Pierrelatte, église sœur. Et je travaille aussi en partie pour, comme pasteur pour la jeunesse de notre union d'église. Marie-Salomé est artiste peintre plasticienne apologète. Vous pourrez discuter avec elle si vous voulez savoir ce que ça signifie. Et je vous transmets les salutations de l'église de Pierrelatte. Et en même temps, à propos d'église, je vous partage ce défi que nous nous sommes lancés il y a quelques mois maintenant. Il a maturé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et ensuite, nous nous sommes lancés comme défi, un très beau défi. Est-ce que vous avez envie de savoir lequel? Ça me rassure. Merci. Nous sommes lancés comme défi d'être une église qui aime. Rien de choquant, ça va pour vous? En fait, chaque année, nous mettons un accent particulier sur quelque chose qui nous semble important. Et on a un accent essentiel. Et depuis un an, on réfléchit pour démarrer, depuis la rentrée dernière de septembre, cette priorisation, cette focalisation sur une église qui aime. Voilà, ça c'est notre défi. C'est-à-dire, nous voulons être des personnes qui aimons et nous voulons être une église qui aime. Peut-être vous savez qu'on a fêté les 30 ans de notre église, enfin de l'église de Christ, à Pierrelatte, en mai dernier. Et à cette occasion, on a entendu de nombreuses personnes dire « Ah oui, l'église de Pierrelatte, c'est une église joyeuse » ou « L'église de Pierrelatte, c'est une église ouverte ». Alors moi, je reçois ça, j'accueille ça. Puis après, je me dis « Ok, c'est intéressant d'être ouvert plutôt qu'on soit fermé. » Quoique, en même temps, ça dépend à quoi on est ouvert. Si c'est ouvert à l'Esprit Saint, ça marche. Si on est ouvert à la parole de Dieu, ça marche très très bien. Mais si on est ouvert aux bêtises, ça marche pas bien du tout. Puis on s'est posé la question en équipe, on s'est dit, mais qu'est-ce que nous voudrions être comme Église? Et on s'est dit, si les gens pouvaient dire que l'Église de Pierrelatte était une Église qui aime, ce serait formidable quand même. Voilà, ça c'est pour expliquer le petit cheminement où on s'est dit à un moment donné, ben voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être une église qui aime? De plus en plus, une église qui aime. Je ne sais pas si vous avez ce défi à l'église de Cré, si vous aimeriez ou si c'est déjà le cas que les gens disent l'église de Cré, c'est une église qui aime. En tout cas, eh bien, ça peut être un bel encouragement. Et pour nous, pour toutes les églises, toutes les petites parts de la grande église de Christ dans le monde entier, d'être une église qui aime. Alors voilà, vous savez l'essentiel sur notre projet de l'année. Et maintenant, on garde ça à l'esprit. Et j'aimerais juste voir ce que Paul a écrit aux chrétiens de Thessalonique. Je vais lire quelques versets qui vont introduire cette prédication. Donc c'est Paul qui écrit à une église des chrétiens de Thessalonique qui manifestement aime déjà. Je lis au premier chapitre versets 2 et 3. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 2 et 3. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tout en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, etc. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour. C'est un amour qui travaille, c'est un amour qui produit, c'est un amour qui grandit. Ok, d'accord. Maintenant, une autre parole dans cette même épître, au chapitre 3, je lis le verset 12. chapitre 3, verset 12. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse ainsi votre cœur, etc. Donc, Paul écrit à des chrétiens qui aiment. L'amour est déjà palpable, manifestement. Et il leur dit que votre amour croisse encore. Qu'il fasse déborder votre cœur. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Alors on dit, ah d'accord, mais pourtant on pensait qu'il avait déjà dit, c'est bon, vous êtes une église qui aime. Oui, c'est vrai. Et il dit que votre amour grandisse encore. Et on regarde maintenant au chapitre 4. Chapitre 4, versets 9 et 10. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel. Car vous-même, vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs de la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore. Donc, finalement, j'en déduis que ce n'est pas quelque chose qui se fait une bonne fois pour toutes, mais c'est quelque chose qui est en marche. Voilà. Nous sommes en marche, sans faire de la politique, nous sommes en marche, une marche saine, une marche d'amour. Formidable ? Alors voilà, c'est pour introduire maintenant ce sujet que j'aborde ici. Alors, je resterai sur un texte que Paul a écrit aux Corinthiens, la deuxième épître. Donc, vous pourrez regarder, si vous avez votre Bible avec vous, gardez le texte avec vous. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 11. C'est ça qu'on va regarder maintenant. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 11. Et juste avant d'en faire la lecture, quelques mots sur le contexte. C'est une épître intime, après avoir rédigé une première épître un peu plus sévère. Et on y voit dans cette épître un homme que on s'est habitué à voir comme un solide gaillard. On a presque l'impression, avec Paul, d'avoir un héros. Et là, ce héros partage ses luttes et son besoin de consolation. On constate aussi que les notions de réconfort ou de consolation reviennent 28 fois dans cette épître, et déjà 8 ou 9 fois dans ces quelques versets. Donc on y lit aussi quelque part le cœur de notre Père Céleste. Il y a de la place pour des notions comme le réconfort ou la consolation. Et qui que nous soyons, il y a des circonstances où notre besoin de réconfort, d'empathie est réel. Et Dieu ne l'ignore pas. Voilà pour le contexte, bref, de ce passage. La parole de Dieu légitime notre besoin de compassion, de réconfort, de consolation. D'ailleurs, le Dieu de la révélation biblique lui-même est le Dieu plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Alors lisons ce texte, 2 Corinthiens, chapitre 1er, versets 3 à 11, avant de faire quelques remarques. Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui accorde la compassion, le réconfort en toute occasion. Il nous console dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant la consolation que nous avons nous-mêmes reçue de lui. En effet, de même que nos souffrances en union avec le Christ sont très grandes, de même nous recevons aussi du Christ un très grand réconfort. Nous, si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez la consolation qui vous fera supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous endurons. Ainsi, nous avons un ferme espoir à votre sujet, car nous le savons, comme vous avez part à nos souffrances, vous avez aussi part au réconfort qui nous est accordé. Nous voulons en effet que vous sachiez, frères et sœurs, à quelle détresse nous avons été confrontés dans la province d'Asie. Le poids en a été si lourd, si insupportable, que nous désespérions de conserver la vie. Nous avions l'impression que la peine de mort avait été décidée contre nous. Cependant, il en fut ainsi pour que nous apprenions à ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivrera encore. Oui, nous avons cette espérance en lui, qu'il nous délivrera encore. Et vous y contribuerez aussi en priant pour nous. Ainsi, Dieu répondra aux prières faites par un grand nombre de personnes en notre faveur. Il nous accordera ce bienfait et beaucoup de gens le remercieront à notre sujet. Trois parties pour rebondir sur ce texte. Notre Père céleste est le Dieu qui réconforte. Nous pouvons être affligés au-delà de toute mesure. Mais nous verrons aussi que nous connaissons, quel grand privilège, le meilleur des consolateurs. Et enfin, nous nous rappelons que nous recevons la consolation de Dieu pour la partager. Alors, il arrive que nous soyons affligés au-delà de toute mesure. Nous le voyons dans les versets 8 à 10, nous savons par ailleurs que Paul n'a pas été épargné par les épreuves, et plusieurs d'entre elles nous sont rapportées dans l'Écriture, mais pas toutes. Là, il nous est dit, par lui-même, que le poids de la détresse a été lourd, insupportable. Beaucoup de souffrances, intérieures aussi. Nous ne les connaissons pas toutes, mais celles que nous connaissons nous aident. Elle nous révèle que Paul aurait vraiment eu raison de se plaindre. Je lis un extrait, on le trouve dans cette même épître au chapitre 11. Quelques versets, écoutez un peu ce que Paul a enduré. J'ai été en prison bien plus fréquemment. J'ai été frappé beaucoup plus et en danger de mort plus souvent. 5 fois, j'ai reçu des autorités juives la série de 39 coups. 3 fois, j'ai été battu à coups de bâton. Et 1 fois, on a essayé de me tuer en me jetant des pierres. 3 fois, j'ai fait naufrage. Et 1 fois, je suis resté 1 jour et 1 nuit dans les flots de la mer. Là, on se dit, c'est fini ou pas ? Ben non, c'est pas fini. Dans mes nombreux voyages, j'ai connu les dangers dus aux rivières qui débordent ou aux brigands, les dangers dus à ceux de mon peuple ou les dangers dus à ceux qui ne sont pas juifs. J'ai été en danger dans les villes, en danger dans les lieux déserts, en danger sur la mer et en danger à cause de faux frères. J'ai connu des travaux pénibles et des dures épreuves. Souvent, j'ai été privé de sommeil. J'ai eu faim. J'ai eu soif. Souvent, j'ai été obligé de jeûner. J'ai souffert du froid et du manque de vêtements. Et le verset 28, chapitre 11, nous dit « Et sans parler du reste ». Ah ok, d'accord. Donc en fait, ce Paul, qui n'a pas été épargné par les épreuves, est en train de nous dire qu'il existe un Dieu qui réconforte dans toutes ces situations-là. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Alors si quelqu'un qui n'a pas été éprouvé dit « oui, Dieu réconforte », on se dit « ouais, d'accord, ok, mais toi, t'as pas été éprouvé ». Mais ici, il est question de quelqu'un qui a connu toutes ces détresses, et d'autres encore, et qui dit « je peux vous affirmer ». Que ce Dieu est suffisant. Le Dieu qui réconforte, ce Dieu est suffisant. C'est ça qu'il est en train de dire. Encourageant, non ? Ces souffrances, verset 5, je reviens au premier chapitre, sont telles qu'elles furent de la même nature de celles qu'a endurées Jésus lors de sa venue sur terre, sa première venue. Alors que Jésus était venu justement pour aimer le monde perdu. Eh bien, Paul a des souffrances similaires. Sa vie a été transformée depuis qu'il a rencontré Jésus, et il vit pour Jésus. Et de ce fait, eh bien, par sa manière de vivre les choses, il est des fois éprouvé très durement. Alors, Nous vivons dans un monde déchu, nous aujourd'hui, toujours hostiles à la vie de Jésus. On ne sera pas toujours épargné par les mêmes souffrances ni les mêmes tristesses que Paul. Néanmoins, on sera pas, on est aussi dans cette réalité que parfois c'est dur. Parfois nous sommes éprouvés si nous voulons vivre en suiveur de Jésus. En réalité, la souffrance fait partie du monde déchu pour tout le monde. Elle fait partie du monde déchu et elle est réalité pour tout le monde, pour tout un chacun, y compris les hommes et les femmes qui ne vivent pas en suivant Jésus. Mais pour nous qui voulons suivre Jésus, nous sommes éprouvés aussi, des fois en plus de ça, des souffrances qui sont le lot de tous, les êtres humains, nous sommes aussi éprouvés en raison de notre désir de vivre ce pour quoi nous avons été créés, c'est-à-dire de suivre Jésus. Dans notre manière de nous positionner, en vivant l'Évangile, par notre éthique, au travail, dans notre vie de tous les jours, nous sommes éprouvés d'une manière particulière aussi, parfois. Et ce qui est édifiant pour nous, c'est que notre positionnement, lorsqu'il y a une épreuve devant nous, notre positionnement est une opportunité pour grandir. Est-ce que nous mesurons ça ? Notre positionnement, à chaque fois, hein, comment je vais suivre Jésus dans mon épreuve ? C'est ça la question. Comment je vais suivre Jésus dans cette épreuve-là ? Et c'est une opportunité pour grandir. Il me semble que c'est assez juste de dire que l'épreuve est comparée à une épreuve d'un bac blanc. Vous voyez le bac blanc, je ne parle pas du bac à sable, hein, je parle du bac blanc. Certains, en terminale, on peut passer le bac blanc, c'est une épreuve blanche. Et cette épreuve blanche, enfin ce bac blanc, il y en a qui sont en terminale en ce moment, ici, dans cette salle ? Pas encore ? En fait, le bac blanc, est-ce qu'il élimine le candidat ? Le bac blanc n'élimine pas le candidat. Le bac blanc, il sert à te positionner pour savoir si tu as travaillé ou si tu dois encore beaucoup travailler. Le bac blanc, ce n'est pas une épreuve qui disqualifie. Analogie avec l'épreuve selon Dieu, l'épreuve n'est pas là pour nous disqualifier. Elle est là pour nous tester. Est-ce que je tiens bien ? Est-ce que je résiste bien ? Est-ce que je vis en tenant la main de Jésus ? C'est ça, hein, la question. Est-ce que je dois la serrer un peu plus fort ? Est-ce que je dois la rechercher, cette main de Jésus ? C'est ça, en fait, l'épreuve. Beaucoup de mystères dans l'épreuve. On n'explique pas grand-chose dans l'épreuve. En revanche, on est appelé à nous positionner. Ça, c'est à chaque fois. On ne comprend pas toujours les épreuves qui nous arrivent. Je ne suis pas certain que Paul comprenait toutes les épreuves qui lui sont arrivées. On n'a pas besoin, d'ailleurs, de chercher quelque chose qu'on n'aura pas toujours, c'est-à-dire la raison de notre épreuve. Par contre, toujours, nous sommes appelés à nous positionner. Et je trouve magnifique, on voit au verset 11, la confiance de Paul. Sa confiance, Paul, en fait, il compte sur la fidélité de Dieu. Il est tellement confiant qu'il dit au verset 9, « Il en fut ainsi pour que nous apprenions à ne pas placer notre confiance en nous-mêmes mais en Dieu. » Il y a une clé, je pense, dans ce texte, elle est ici. Nous sommes éprouvés, tu es éprouvé. Alors, question, en qui places-tu ta confiance en ce moment ? En qui est-ce que je place ma confiance ? Est-ce que je compte sur moi ? Je mets des trucs en place, ou des fois, je n'ai même pas l'énergie de mettre des trucs en place, parce que si je suis éprouvé, je ne vois pas les choses très clairement, toujours. Est-ce que je compte sur moi-même ? La question, elle est là. Il en fut ainsi pour que nous apprenions à ne pas placer notre confiance en nous-mêmes. Peut-être que l'épreuve est en train de me montrer, tellement je suis déstabilisé, qu'en fait, c'est une grâce de comprendre que je ne peux pas compter sur moi. C'est un cadeau que Dieu me fait. Jean-Yves, tu n'as pas compris encore. Tu ne peux pas compter sur toi, sur toi-même. Alors, il y a une opportunité ici pour te dire, lâche prise. Lâche prise, mais lâche pas ma main. Viens chercher ma main. C'est pas pareil. Lâche prise, c'est tenir la main de Jésus. Quand tu lâches prise, c'est tu lâches la prise sur le néant, sur ce que tu ne contrôles pas, pour tenir la main de Jésus. Et si tu tiens la main de Jésus, il ne peut pas te lâcher. Parce que si tu tiens la main de Jésus, sa main est plus forte. Vous vous souvenez, Jean 10, nous sommes, si nous sommes ses enfants, dans la main de Dieu. Le Père, dans la main du Fils. Je ne sais pas comment ça se traduit, comment on imagine ça. On est dans sa main. Ça veut dire que si tu tiens la main de Jésus, il ne te lâchera pas. C'est une parole de foi pour nous. Il ne te lâchera pas. Je pense que Paul connaissait très bien cette parole, vous la connaissez, plusieurs parmi vous par cœur, j'en suis sûr, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. C'est pas je redoute aucun mal parce que je suis fort, c'est je redoute aucun mal car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends, c'est ça qui est écrit. Voilà ce qui me rassure. C'est ça dont nous avons besoin lorsque nous sommes éprouvés. C'est de focaliser, de mettre notre regard par la foi sur lui, par la confiance sur lui. Le secours nous vient de Dieu, celui qui a fait la terre et les cieux, ce même Dieu-là, qui a créé l'univers. Notre secours vient de lui. Donc, je disais, nous pouvons être affligés au-delà de toute mesure, c'est-à-dire... On ne maîtrise plus là, on ne maîtrise plus grand-chose d'ailleurs. Je pense qu'on ne maîtrise pas grand-chose dans la vie, on ne contrôle pas grand-chose dans la vie, mais là, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ok. Maintenant, cette transition pour aller vers cette seconde partie, c'est que nous connaissons le meilleur des consolateurs. Un proverbe affirme, ce n'est pas un proverbe biblique, mais je trouvais ça très beau. L'amitié fraternelle double la joie et réduit les peines de moitié. Je pense qu'il y a un bon proverbe pour une église. Hein. L'amitié fraternelle double la joie et réduit les peines de moitié. Il est tellement précieux pour nous d'exprimer notre compassion les uns envers les autres, d'être proches les uns envers les autres, d'être proches avec, à côté des uns et des autres, pour nous soutenir. Mais nous-mêmes, où est-ce que nous trouvons nos ressources ? En nous-mêmes, non, on l'a dit. Eh bien, on la trouve, verset 3, dans ce Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. C'est écrit, en toute occasion. C'est-à-dire, il n'y a pas des occasions qui existeraient où Dieu ne serait pas suffisant. C'est ça que ça veut dire aussi, indirectement. Verset 4, il nous console dans toutes nos détresses. Notre Père bienveillant nous console dans toutes nos détresses. Mais, ce qui est formidable aussi, c'est que ce n'est pas seulement l'une des trois personnes de la Trinité qui nous console. En effet, verset 5, de même que nos souffrances en union avec le Christ sont très grandes, de même nous recevons aussi du Christ un très grand réconfort. Donc dans le réconfort, nous avons le Père qui agit et nous avons aussi le Fils. Le Fils pour nous montrer que ce réconfort est vraiment voulu pour couvrir nos détresses vécu en raison de notre foi. Je priais durant cette préparation et un verset m'est venu. C'est le verset le plus court de la Bible. Vous le connaissez ? Deux mots. Jésus pleura. Le verset le plus court, peut-être c'est pour qu'on s'en souvienne, je ne sais pas. Là, on n'a pas d'excuse pour ne pas l'apprendre par cœur, celui-là. Jésus pleura. C'est dans Jean, au chapitre 11. Jésus pleura. Tiens, mais normalement, un garçon, ça pleure pas, n'est-ce pas ? Un garçon, ça pleure pas. Et un homme, ça pleure encore moins, n'est-ce pas ? Ça pleure pas, un homme. Mais pourtant, il est écrit « Jésus pleura ». Il n'était pas un petit garçon de 4 ans, parce que mon fils, ça lui arrive encore de pleurer, assez souvent d'ailleurs, par période, mais ce n'est pas le sujet. Mais là, on a un homme ici qui n'est pas n'importe quel homme. Le Fils de Dieu, c'est-à-dire celui qui incarne le Père par excellence, celui qui est le plus humain, Jésus pleura. L'homme parfait, l'homme sans péché, qui gère parfaitement ses émotions, tellement il nourrit son être intérieur avec son Père céleste, eh bien cet homme qui représente Dieu parfaitement, l'image excellente de Dieu, sans altération aucune, cet homme pleura. Qu'est-ce que ça fait du bien de savoir et de voir que Jésus pleura? Qu'est-ce que ça fait du bien de voir de l'humain lorsque nous n'avons plus besoin de... Nous comprenons que nous n'avons plus besoin de jouer nos rôles pour tenir, pour être forts. Jésus nous montre le chemin, là encore. Nous sommes en bonne compagnie avec Jésus qui pleure. Nous sommes en bonne compagnie aussi avec les uns et les autres qui sont éprouvés lorsque nous prouvons, lorsque nous pleurons, lorsque nos émotions, nos larmes s'expriment. Il y a un temps pour tout, nous dit l'Ecclésiaste, un temps pour rire, un temps pour danser, un temps pour chanter, un temps pour pleurer, un temps pour consoler. Et ce Jésus qui pleura, c'est un cadeau pour nous. Il vient rencontrer l'humanité perdue. Le contexte de Jean 11, c'est l'un de ses amis, Lazare, souvenez-vous, hein, qui est décédé. Il va le ressusciter quelques jours, quelques heures plus tard. Et là, il pleure quand même. Il est avec, plein de compassion pour les frangines de Lazare, qui, elles, sont bien là. Si ce n'est pas une preuve supplémentaire de compassion de la part de Jésus, de ce Dieu fait fils, alors merci Jésus. D'ailleurs, je crois que certaines larmes sont des larmes de purification, des larmes de restauration. Et nous le vérifions lorsque nous éprouvons cette émotion. Alors le Père consolateur, le Fils consolateur, et ça c'est à rajouter de quelque chose qui est souvent plus connu, à savoir que l'Esprit de Dieu est aussi consolateur. Quand le Consolateur sera venu, c'est comme ça qu'il nous est parlé de l'Esprit-Saint, par Jésus lui-même, en Jean 4, en Jean 16, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Eh bien, ce sont toutes les personnes de la Trinité, les trois personnes, qui participent à la consolation des bien-aimés de Dieu. Tout le monde est sur le front pour les bien-aimés de Dieu. Tout le monde, vous me comprenez, ce n'est pas les trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais trois personnes, Dieu lâche tout pour nous consoler, lorsque nous sommes éprouvés en raison de notre fidélité à Jésus. Il nous réconforte. Et ce qui est formidable, vous l'avez expérimenté, on l'expérimentera encore, c'est que Dieu est capable, dans ces conditions, de nous apporter une paix qui est insondable, c'est-à-dire qu'une paix qui est assez mystérieuse, c'est-à-dire que humainement, on n'aurait pas de quoi être, on devrait pas être en paix, quoi, dans certaines situations. Je pense qu'il y a des amis à nous qui nous côtoient, certainement, et des amis à vous qui disent, mais c'est possible qu'ils soient en paix là avec ce qu'ils sont en train d'éprouver. Et ça, c'est pas une paix qui vient de nous, c'est cette fameuse paix qui vient de Dieu, qui nous aide à tenir. Ça fait partie des cadeaux de son réconfort, malgré l'enfer, entre guillemets, le cauchemar qui surgit autour de nous. Nous avons beau vouloir, souvent, par réflexe, à tout prix que Dieu change nos circonstances. Mais il semble qu'il ne le fasse pas systématiquement. En revanche, une opportunité est placée devant nous pour que nous soyons transformés, pour que nous grandissions de cette épreuve durant laquelle nous saisissons un peu mieux combien Dieu est vivant. Ça peut être un chemin difficile, bien entendu. ce qui a été écrit pour Paul nous montre que, voilà, alors, je pense qu'on n'est pas tous éprouvés comme Paul, en tout cas pas moi, mais ce n'est pas facile. Mais il y a un chemin d'excellence dans cette difficulté. Pour un cœur purifié, pour un cœur qui soit mieux consacré à lui. Un cœur qui gagne en sagesse pour mieux hiérarchiser nos priorités. À quoi je m'attache dans mon quotidien ? Je suis un voyageur sur terre, je suis une personne de passage, si je suis un enfant de Dieu, je le comprends. À quoi je m'attache ? Je perds du temps à des trucs qui n'ont aucun sens, je me laisse divertir par des choses qui me détournent de la vraie vie, du chemin. Ah, je perds du temps, je ne le vois pas. Et là, je suis éprouvé, j'ai une opportunité pour me ressaisir. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire en ce moment ? Tu veux me parler, tu m'aimes. Tu veux me parler. Tu m'as déjà parlé. Ah, ok. Alors, est-ce que j'ai besoin de t'écouter davantage ? Je suis dur de la feuille. Je suis dur du cœur. Ben oui. Seigneur, je veux m'accrocher à ta main. Je te fais confiance. Je veux marcher avec toi. Je ne vois pas trop grand-chose. Hein, autour. Je vois rien du tout, en fait, d'ailleurs. Parce que quand je suis dans le brouillard, je suis dans le brouillard. Je veux juste te tenir la main. C'est juste ça que je veux faire. Et il nous porte, ce Dieu plein de compassion, car il est riche en bonté, dit Paul, verset 3, riche en bonté. Tu peux dire ça de quelqu'un que tu côtoies, il est riche en bonté ? Des personnes qui sont généreuses, qui sont bienveillantes, bonnes, on en connaît, je suis sûr que vous en connaissez aussi, j'en connais dans cette église. Riche en bonté, il est comme ça, notre Dieu. Père de tout réconfort, pour reprendre ces mots. Eh bien, il est capable de nous porter, de nous élever au milieu de nos épreuves, grâce à sa fidélité, grâce à sa main qu'il tend. Dieu ne peut pas abandonner les siens. Vous savez pourquoi il ne peut pas abandonner les siens ? Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il nous tient. Aucun d'entre vous ne se perdra. Et en fait, Dieu ne sait pas faire. Dieu ne sait pas abandonner les siens. Ce n'est pas dans sa nature. Il ne peut pas faire. Il ne voudrait pas faire. Il ne peut pas faire. Donc, il nous tient. Nous pouvons nous répéter ça à nous-mêmes. Et nous pouvons aussi, je crois que nous avons le droit de le dire, toujours avec sagesse et humilité quand nous côtoyons les uns et les autres. Dieu ne te lâchera pas. On peut le dire ça. Dieu ne te lâchera pas. Il ne sait pas faire. Je pense que c'est beaucoup plus porteur de vie, et je pense que c'est beaucoup plus juste que de dire « Demain, ça ira mieux. Demain, ça ira mieux. » On le souhaite tous. Mais des fois, on dit ça peut-être pour changer de sujet, quoi. Voilà. Par contre, on peut dire « Dieu ne te lâche pas. » Je ne sais pas ce que ça veut dire quand je te le dis à toi, mais Dieu ne te lâche pas. Je le sais, c'est écrit. C'est la Bible qui l'affirme. Puis si vous imaginez une église qui se le dit, c'est une manière de s'aimer les uns les autres, de dire Dieu ne te lâchera pas, Dieu ne te lâche pas, pas possible. Ce Dieu compatissant, de miséricorde, de compassion, c'est un Dieu qui est complètement intarissable de bonté. Et nous en arrivons à cette dernière partie, plus courte, c'est que verset 4, il nous console dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant la consolation que nous avons même nous-mêmes reçue de lui. Nous ne choisissons pas nos souffrances. Certaines, on les choisit. Mais ces souffrances-là dont il est question dans ce texte-là, celles qui sont dues à notre positionnement en Jésus, nous ne les choisissons pas d'une certaine manière. Mais j'ai envie de dire, ne les gâchons pas. Elles viennent sur toi, tu ne les as pas voulu, tu ne les choisis pas. Elles viennent sur nous, ne les gâchons pas. Ne les gâchons pas. Nous ne pouvons pas les éviter, au moins, ne les gâchons pas lorsqu'elles nous tombent dessus. Et si ça se trouve, c'est une caisse de résonance formidable pour notre cœur. Je parlais de notre cœur parfois un petit peu dur, en tout cas du mien. Vous connaissez cette citation de C.S. Lewis qui disait que l'épreuve est le mégaphone de Dieu. Pour nous dire que parfois, c'est l'épreuve qui va m'aider à enfin écouter Dieu. Non pas que Dieu crie plus fort. Il parle de toute façon, hein, il parle, on a sa Bible, hein, donc il nous parle hein, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Mais moi, je ne l'écoute pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc là, l'épreuve, parfois, est le mégaphone de Dieu. Et parfois, notre écoute est plus belle lorsque nous sommes éprouvés. Alors, pour conclure, je dirais qu'une église qui aime est une église qui place sa confiance en Dieu et aussi qui essaie de développer des relations de confiance les uns envers les autres, et ça prend du temps, ça c'est du chemin, pour qu'on puisse oser se partager nos défis. Je ne sais pas comment c'est chez vous, chez nous, j'observe que des fois je suis au courant de détresse, mais ça reste dans des petits, au niveau de l'Église, hein, mais ça reste dans des petits comités. Et on n'ose pas toujours crier sur les toits, bien entendu, je comprends ça. Mais en même temps, plus on va avoir confiance les uns envers les autres, et plus on va dire, oh, priez pour moi, en ce moment c'est dur. Oh, ok, des fois on n'a pas besoin de détailler plus. On n'a pas besoin des détails. D'ailleurs, dans 1 Thessaloniciens que j'ai lu tout à l'heure, si j'avais poursuivi un verset, il y avait écrit, dans votre manière de vous aimer, occupez-vous de vos affaires. C'est écrit. Donc ce n'est pas l'idée d'aller s'ingérer outre mesure. C'est l'idée que si on reste chacun dans son coin et qu'on ne partage pas nos détresses, on passe à côté de quelqu'un qui va nous dire « Hé, Dieu ne te lâchera pas ». Donc il faut qu'on se le dise, il faut qu'on ose parfois élargir un petit peu, qu'on partage un petit peu plus, franchement. En ce moment, c'est dur, prie pour moi. C'est dur pour moi, j'ai du mal, j'arrive pas à me tenir positionné, je sais pas, enfin, voilà. Et pas seulement prier pour que je réussisse mon examen, pas seulement pour que ma nièce réussisse son permis de conduire. C'est bien, hein, mais qu'on puisse aussi prier pour les choses qui font partie de notre quotidien, qui changent nos vies, ce pourquoi on existe, pour tenir. Une dernière chose avant de terminer. Je comprends de mieux en mieux, je crois comprendre de mieux en mieux, que ce qui est important pour Dieu, c'est qu'il transforme mon caractère, qui a encore besoin d'être transformé. Si j'étais arrivé déjà, si j'étais copie conforme de Jésus, c'est bon. Jésus n'aurait plus rien à faire avec moi, quelque part. Ce n'est pas tout à fait encore le cas, mais on a été créé pour vivre à la ressemblance de Jésus. Jésus nous ouvre la voie pour qu'on marche dans ses pas, pour qu'on le suive dans notre contexte à nous. Et je crois comprendre que ce qui est de plus en plus précieux, c'est qu'on comprenne qu'il veut changer notre caractère. Pas qu'il transforme nos circonstances toujours, qu'il change notre caractère. Je conclue avec un texte biblique. Je vous invite, si vous le voulez, vous connaissez ce texte, à fermer les yeux, si vous voulez, si ça vous aide à être mieux concentré. Je vous lis 3 versets. C'est Jésus qui parle. Jésus, il parle à ceux qui sont au bout du rouleau. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour tout votre être. Le joug que je vous invite à prendre est bienfaisant, et le fardeau que je vous propose est léger. Amen. Que la paix de Dieu, ce Dieu du réconfort, soit sur chacun d'entre vous et sur vous, Église de Créteil.